Il reste 90 voire 95 minutes pour obtenir un billet pour la Ligue 1. Ça passera par une victoire face à Rodez et des échecs du Havre et de Metz. Ça fait beaucoup de paramètres. On en parle avec notre invité, journaliste à beIN Sport, Éric Barrère. L'invité de Bordeaux Le Mag du podcast sur les Girondins de Bordeaux, c'est Éric Barrère, journaliste à beIN Sport. Bonjour Éric.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Vous étiez présent sur le dernier match à Annecy, ça s'est pas bien passé pour les Bordelais. Il reste un dernier rendez-vous à jouer face à Rodez, ça sera au Matmut Atlantique. Retour avec vous sur ce match, comment vous l'avez vécu à Annecy? Est-ce que vous avez senti que les Bordelais à aucun moment n'étaient en mesure de gagner ce match ou on a mal vu?
Bah, j'ai senti surtout beaucoup plus de détermination du côté annécien. Ah, il faut rappeler qu'ils jouaient pour leur survie aussi en Ligue 2, il fallait absolument qu'ils gagnent. Et c'est un rapport de force, les Bordelais ont perdu ce rapport de force, ils ont été moins engagés, moins dans l'envie de gagner pour monter en Ligue 1 que les annéciens qui, eux, luttent pour le maintien. Alors Bordeaux perd 1-0 sur un but assez précoce. Bordeaux a eu des occasions, mais ce qui est assez paradoxal, c'est sans être dominateur dans le match. Ils ont eu la possession, mais ils ont eu beaucoup de mal à trouver des failles. Et quand ils les ont trouvées, ils ont été maladroits. Il y a eu 4-5 situations où le gardien, en plus, a été exceptionnel. Mais j'aurais tendance à dire que, franchement, pendant les 90 minutes du match, je n'ai pas senti que la victoire des Annéciens était une victoire volée. Voilà, il y a eu, selon moi, sur le ressenti que j'ai eu, plus de volonté d'aller chercher cette victoire pour aller garder ce billet en Ligue 2 la saison prochaine. Voilà, dans ce rapport de force, les Bordelais l'ont perdu clairement.
Si je vous comprends bien, Bordeaux n'a pas su se mettre à la hauteur peut-être de l'événement, c'est-à-dire que sur ce match-là, c'est pas à 100% qu'il fallait être, mais 200% pour démontrer que oui, ils voulaient être en Ligue 1.
Ah, clairement, oui. Moi, c'est la sensation que j'ai eue quand le coup de sifflet final a retenti. Hein. Je me suis dit, l'équipe qui a gagné aujourd'hui, c'est l'équipe qui en voulait le plus. Voilà, c'est vraiment ça. Ils ont gagné des duels, ils ont fait un pressing, ils avaient élaboré un plan spécifique pour gêner les relances de Johan Barbet, là, qui était pressé tout de suite sur son pied gauche, sur ses relances longues ou même les relais qu'il peut trouver au milieu de terrain. Voilà, il était particulièrement ciblé. Et j'ai trouvé une vraie débauche d'énergie du côté des Hauts-Savoyards. Je connaissais pas très bien le joueur qui a été formé au Girondins, Steve Chamal, mais je l'ai trouvé exceptionnel. Il a fait un match incroyable dans l'intensité, dans l'envie, dans l'engagement, dans les rushs qu'il a fait sur le côté. Voilà, pour moi, sur ce match-là, spécifiquement, les Bordelais ont été un ton, voire deux, en dessous en termes d'engagement et de volonté. Ils n'ont pas mis ce qu'il fallait pour aller chercher ce billet pour la Ligue 1 sur ce match-là.
Et forcément, c'est une déception quand on est Bordelais et qu'on regarde cette rencontre, on se dit encore une fois, ils passent à côté de quelque chose parce que ce n'est pas la première fois. Et vous disiez la relation difficile entre Johan Barbet, qui est le premier meneur de jeu de cette équipe, avec son milieu de terrain qui, à mon goût, devant ma télévision, François-Sergio Manga, ça a été inexistant.
Ouais, mais parce que cette relation entre Mwanga et Barbet, elle a été coupée par les Annéciens. Sincèrement, ils s'étaient privés de leur meilleur buteur, là, le mec pété par Strasbourg, Saïd Dion, voilà, qui est un garçon qui joue souvent seul devant. Et ils avaient mis Bozetti et Vincent Pajot dans ce rôle-là pour couper cette relation. Mwanga, il a été inexistant parce qu'on ne le trouvait pas. Alors après, il a peut-être pas trouvé des déplacements ou des solutions pour se démarquer. Mais la relation Barbet-Mwanga, elle a été coupée par les Annéciens. Voilà pourquoi il a eu très peu d'influence. Franck Sergio a été fidèle à lui-même. Il se replace sur un ballon perdu en marchant. Ouais, je l'ai pas trouvé hyper impliqué ni très propre techniquement. Mais ça, c'est pas nouveau. Après, les Girondins de Bordeaux sur la saison. J'ai pas eu l'impression qu'au milieu de terrain ils étaient rayonnants. Il n'y a pas un meneur de jeu ou deux joueurs qui prenaient l'ascendant sur les autres. Voilà, il y avait souvent deux récupérateurs. Ils étaient beaucoup dans l'engagement, mais pas dans la créativité ou l'imagination au milieu de terrain. Donc c'est pas une zone du terrain où les Bordelais rayonnent cette saison. On pense à Maja, David Tachvili offensivement, on pense à Gregersen Barbet à la charnière. Voilà, c'est plus dans ces secteurs où les Bordelais ont répondu présent et ont brillé cette saison. Donc le milieu de terrain bordelais sur le match d'Annecy a été supplanté par l'engagement et l'envie des Hauts-Savoyards.
Est-ce que cet échec à Annecy, alors même s'il reste un match et que tout est encore possible, tous les scénarios sont possibles puisqu'il reste 90 voire 95 minutes suivant le temps additionnel, comme on dit à chaque fois, est-ce que ce match perdu à Annecy, c'est pas vraiment un coup sur la tête et que Bordeaux aura du mal à s'en remettre?
Bah, disons qu'ils n'ont plus leur destin entre leurs pieds, quoi. Même s'ils gagnent leur match, voilà, ça sera peut-être pas suffisant. Maintenant, vous le savez comme moi, là, le foot, c'est pas très rationnel, hein. Il y a des résultats qui peuvent surprendre et qui continueront à surprendre. J'ai vu les joueurs juste après le match dans le vestiaire. La première impression que j'ai eue, c'est de l'abattement, de la détresse, de la tristesse et le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Mais pour en croiser une demi-heure, 45 minutes, une heure après, on a que certains qui commençaient à se dire, mais bon, c'est pas fini. Hein. Ok, on a raté une occasion là, mais Metz n'est pas forcément vainqueur de Bastia avec 3 ou 4 buts d'écart. Dijon, qui joue au Havre, doit absolument gagner pour se maintenir. Alors, c'est aussi le cas de Rodez au Matmut, mais certains joueurs, et pas n'importe lesquels, hein, parmi les cadres, je pense à Johan Barbet ou Vital Nsimba, ont commencé à dire, attention les gars, on a raté une occasion, mais c'est pas fini. Voilà, il faut aller jusqu'au bout et tout donner. Alors, c'est sûr, Bordeaux n'a plus son destin entre les mains, parce que si le Havre et Metz gagnent assez confortablement, ben, ce sera terminé. Et oui, là, il y aura vraiment de la déception. Mais, comme dit l'adage, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Moi, je préfère quand on dit c'est après la foire qu'on compte les bouses.
Et espérons, Eric, quand même, que l'on ne va pas regretter les 2 pénaltys manqués par Maja.
Il y a ces occasions-là, des matchs où il y avait la possibilité de mettre 2 buts de plus, Quevilly où on fait 0-0, si le match allait contre Annecy, que tu gagnes 1-0 seulement, alors qu'il y a beaucoup d'occasions, ouais, des regrets, on pourra en avoir, mais imaginons que Maja n'a pas mis ses 2 pénaltys pour garder ses 2 ou 3 buts contre Rodez, ce week-end, on n'y pensera plus.
Espérons, mais quand on regarde le goal average, plus 26 pour Le Havre, plus 27 pour Metz, plus 24 pour Bordeaux. Si vous mettez les 2 buts de Maja, on est à plus 26 avec Metz. Donc l'écart, les 4-5 buts qu'on doit marquer, c'est plus la même.
Mais on n'est pas obligé de marquer 4-5 buts, Alain.
Oui, il suffit que Metz en prenne aussi.
C'est ça, ou que Dijon gagne au Havre. Voilà, il suffit que Dijon gagne au Havre 1-0 et que Bordeaux gagne 3-0. Eh bien, on aura 72 points comme le Havre et un goal average favorable par rapport au Havre. Et ça, c'est un scénario qui peut très bien se produire. Le Havre n'a pas gagné depuis 4 journées, donc ils ne sont pas forcément sereins, même si la Ligue 1 et le titre leur tendent les bras depuis un petit moment. Voilà, le foot, vous le savez, c'est irrationnel. Voilà, c'est irrationnel. Bordeaux est champion en 99 à la dernière minute du match au Parc des Princes. Bordeaux a renversé l'AC Milan 3-0 après avoir été mené 2-0 en Coupe d'Europe. J'ai cette référence parce que j'étais au match en 99. Le Bayern de Munich menait en finale de la Ligue des Champions jusqu'à la 90e minute 1-0 face à Manchester United. Et les Anglais ont gagné 2-1. Il y a plein d'exemples où on confirme que le foot est irrationnel. Alors, on est ici entre supporters bordelais, on est des journalistes, mais on est aussi des supporters. On se raccroche à des petits trucs, voilà, parce qu'on se dit, tant que c'est pas perdu, il faut encore y croire. Alors, on a un mince espoir, on se raccroche à ce genre de choses. Mais après, avec le recul, il peut tout se passer sur un match de foot. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. C'est pour ça qu'on l'aime tant aussi.
Invité de Bordeaux Le Mag, Eric Barrère, journaliste à Bein Sport. Ce match face à Rodez, Bordeaux va devoir le prendre par le bon bout. Mais lorsqu'on lit, par exemple, l'interview aujourd'hui de Gérard Lopez, il dit, le président, on n'est pas obligé de prendre le match à bras le corps tout de suite, on peut le construire. Mais on aimerait bien qu'on le prenne à bras le corps parce qu'il va avec 42 000 personnes, il va falloir les amener avec eux.
Ben évidemment, d'autant que Rodez, cette saison, j'ai regardé, ils n'ont pas du tout pris 5 buts déjà en championnat, ou encore moins 6. Hein. Donc ils en ont pris 3 lors de la dernière journée. Mais c'est sûr qu'ils sont moins habitués que les Girondins à jouer dans des stades pleins. Le stade Paul Lignon, il ne contient pas 42 000 personnes. Et ils ont mis emballer le match et essayer de marquer rapidement pour les faire douter, parce qu'eux aussi ont besoin d'un succès pour se maintenir. Il vaut mieux les faire douter le plus vite possible plutôt que d'attendre Et puis, la 92e ou la 93e, et jouer avec le cœur des supporters, parce que, à mon avis, il y en a certains qui vont lâcher. Donc, non, il vaut mieux prendre ce match à bras-le-corps. Ils l'ont fait contre Laval, voilà, avec le soutien du public. Il va y avoir une vraie effervescence, un vrai engouement, un vrai soutien. Ils auraient une bonne idée, les coéquipiers du Juan Barbé, de prendre ce match à bras-le-corps et de marquer rapidement pour se rassurer, hein, et surtout pour faire douter les Ruthénois.
Et est-ce qu'on peut penser que le coach David Guillon peut envisager un changement de tactique, c'est-à-dire oublier le 4-4-2, le 4-3-3 et se dire ben, pourquoi pas passer à une défense à 3 pour avoir des pistons comme Nsimba, comme Michelin, parce que Bokele n'a pas été très bon, mais on peut le replacer en défense centrale, pour amener un plus offensivement parce qu'il faut marquer.
Ouais, mais est-ce que c'est sur le dernier match de la dernière journée qu'on change un système qui a fait ses preuves sur les 37 premières? C'est une question. Est-ce qu'il faut tout révolutionner
pour éventuellement... Eric, il n'y a rien à perdre.
Il y a une place en Ligue 1.
Oui, mais aujourd'hui, ils sont troisième. Ils ont tout à gagner.
Oui, ils sont troisième. Oui, bien sûr. Mais est-ce que... Moi, c'est une question. Je réponds une question par une question.
Oui.
Mais est-ce que David Guillon a intérêt à prendre un risque dans un système qui est moins maîtrisé par les joueurs? Voilà, même si on joue à 3 avec Greg Arsen, avec Bokele, avec Barbé, est-ce que Michelin aura l'apport offensif nécessaire dans ce rôle de piston? Voilà, est-ce que les automatismes qui n'existent pas dans le système à 3 derrière et à 5 au milieu apportent les mêmes garanties qu'un système à 4 derrière avec 4 milieux? Moi, j'aurais tendance à dire, ne révolutionnons pas tout. On a gagné des matchs en 4-4-2 ou en 4-2-3-1. Utilisons les systèmes qu'on connaît et qu'on maîtrise pour faire la différence. Voilà. Après, je ne suis pas David Guillon.
Ouais, ce match face à Rodez, on va attendre beaucoup de ce public, 42 000 spectateurs. Je dis spectateurs, est-ce que ça va être 42 000 supporters selon vous?
Moi, j'y crois. Moi, je pense que les Girondins, les supporters, les amateurs de foot qui ont gardé leurs billets, parce que j'ai entendu que certains, après le match d'Annecy, essayer de les revendre et forcément pas veulent pas aller au stade, donc il y aura des acharnés. Alors je souris parce que avant le match d'Annecy, j'avais plein de demandes de place. Il y en avait plus. Je suis désolé, il y a plus de place, on peut plus en trouver. Et des gens qui m'avaient sollicité me rappellent en me disant tu vois, j'en ai trouvé, moi je veux absolument y aller, je voulais y aller avant, j'ai pas pu, mais là il y a des places qui sont revendues, je veux y aller, j'y serai. Il y aura 42 000 fervents supporters. Il y a une prise de position, il y a des gens qui veulent aller encourager cette équipe et faire le maximum pour soutenir cette équipe des Girondins de Bordeaux. Moi, je pense qu'on aura vraiment 42 000 supporters face à Rodez. J'en suis persuadé.
Est-ce que c'est le moment ou jamais que ce Matmut Atlantique ait son histoire? Alors, il y avait eu le match face à la Gantoise qui avait permis à Bordeaux de se qualifier.
Ouais.
Mais est-ce que c'est pas ce match-là, s'il a monté au bout, où on peut commencer à écrire enfin l'histoire de ce nouveau stade?
Ah, ben évidemment. Tu fais un gros match avec une montée en Ligue 1 à l'issue de ce match, voilà, le Matmut aura gagné ses galons de stade mythique pour les Girondins de Bordeaux. C'est évident, hein, on se souvient tous des gros matchs à l'Escure, la Juve, la AC Milan, voilà, notamment enfin, les finales, la finale de l'UEFA perdue contre le Bayern, voilà, des matchs mythiques à l'Escure. C'est vrai que depuis 2015, le Matmut a plus souvent résonné positivement pour du rugby quand il y a eu le top 14 ou pour des concerts, pas vraiment encore pour les Girondins. Mais c'est sûr et certain, s'il y a qualification montée en Ligue 1 vendredi soir au Matmut, il aura gagné ses galons de stade historique pour Bordeaux, ça c'est sûr. Ça sera une première page, voilà.
On se veut bien sûr optimiste puisqu'il reste un match, mais si malheureusement ça ne se passe pas bien, la saison sera manquée pour les Girondins de Bordeaux?
Je suis mitigé. Est-ce qu'on les attendait à la lutte pour la montée à la 38e journée? Je ne crois pas. En début de saison. Moi, le premier, j'ai été surpris par l'acclimatation rapide des jeunes. Voilà, on rappelle que Barbé et Nsimba sont arrivés tardivement par rapport à leur qualification. Les jeunes ont pris les choses en main dès le début. Voilà, moi, ils m'ont surpris. Hein, je me disais, mais c'est pas possible, comment ils font? Ils vont s'écrouler à un moment donné, non? David Guillon a bien managé. Ça n'a pas été parfait, mais il n'y a pas une seule équipe qui maîtrise tous ces matchs dans ce championnat de France de Ligue 2. Voilà, et les Girondins de Bordeaux font partie des équipes qui ont longtemps bataillé. Il y a eu Bastia, il y a eu Sochaux, il reste Metz, il reste Le Havre, il y a les Girondins de Bordeaux, sans avoir une maîtrise régulière sur les matchs. Ils ont joué des bouts de match en dominant, mais on ne les attendait pas là. Alain, franchement, vous les attendiez là, à la 38e journée, avec la possibilité de jouer en Ligue 1 après 90 minutes?
Sur leur nom, oui. sur leur nom, on se dit que Bordeaux peut.
Oui,
il peut y être.
D'accord.
Mais après, oui. On attendait Saint-Etienne aussi, ils n'étaient pas là.
Ah oui, et voilà.
Voilà. Mais au bout de quelques
c'est une surprise.
Matchs.
C'est une sacrée bonne surprise quand même, au final.
Mais au bout de quelques matchs, on a senti que c'était possible. Même si c'était pas
oui.
parfait, même si c'était pas terrible. À un moment donné, enfin, moi, je me suis même dit à un moment donné, je crois que c'est avant la trêve de la Coupe du Monde, que Bordeaux, et je vais mettre des guillemets sur ce que je dis, allait marcher sur la Ligue 2. Malheureusement, je trouve que la coupure, elle a pas fait forcément du bien.
Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, franchement, avant la première journée, j'aurais pas mis 10 euros sur cette saison exceptionnelle fournie par les Girondins de Bordeaux. Voilà. Et je me demandais si David Guillon serait un homme assez à poigne. Finalement, c'est l'homme de la situation, avec sa manière à lui. Il a déjà connu une montée. J'ai regardé avec Reims, quand il est monté, il avait une équipe de garçons expérimentés. Ils avaient mis 88 points dans la saison. 88 points, ils avaient écrasé la Ligue 2 cette saison-là. Là, on en est loin, mais voilà, il a trouvé aussi d'autres leviers avec un groupe beaucoup plus jeune qui a tenu des promesses et qui a surpris beaucoup, beaucoup de monde. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de supporters des Girondins de Bordeaux qui, avant le début du championnat à la J1, auraient mis beaucoup d'argent sur la possibilité de monter en Ligue 1 à la 38e journée pour les Girondins de Bordeaux.
Éric, Régis Brouaz dit que Bastia va jouer le jeu à Metz, mais on sait que les matchs Bordeaux-Bastia, Bastia-Bordeaux sont pas véritablement bien passés, l'ambiance était pesante. Est-ce qu'on peut y croire ?
Moi, je reste sur les propos de Régis Brouaz, pas à la cérémonie des trophées UNFP, mais avant le match qu'il a livré face au Havre avec Bastia, score final 1-1, il avait dit en conférence d'avant-match, il a dit « Moi, je jouerai le jeu à fond jusqu'à la dernière minute de la dernière journée, parce que dans un an ou dans deux ans, je veux pas me retrouver en situation de montée avec un adversaire que j'aurais défavorisé deux ou trois ans après et qui me fasse la même, quoi, qui me rende la monnaie de ma pièce. J'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. Donc, Régis Brouard, je le connais un peu, je pense qu'il bataillera jusqu'au bout. Il jouera ce rôle d'arbitre. Après lui, il joue pas. Est-ce que les joueurs seront tous concernés, concentrés, les basquets, hein, j'entends. Mais je pense pas que lui donne des consignes pour lever le pied à Metz. J'y crois pas. Je crois vraiment qu'il n'a pas envie de se retrouver dans 2-3 ans dans la même situation que Bordeaux et que quelqu'un lui fasse un petit dans le dos en levant le pied et l'empêchant de monter. Voilà. Parce que dans le foot, on a de la mémoire quand même. On se souvient des comportements un petit peu litigieux, même 2-3 ans après. Et je pense que Brouard, il veut éviter ça.
Une dernière question, Eric. Les Bordelais... pas en Ligue 1 l'année prochaine, donc en Ligue 2, ça se passe mal ce week-end. Est-ce qu'on peut être inquiet sur l'avenir, même si on a l'impression que Gérard Lopez entend rester au club ?
Moi, ce qui m'ennuierait, c'est que je me demande, si on rate le coche cette année, j'ai la désagréable sensation qu'on va rester en Ligue 2 un long moment. Parce que cette Ligue 2, Nantes peut descendre, il y a 3, j'ai l'impression qu'en fait, elle se renforce. Voilà, il y a de plus en plus de clubs. On peut se retrouver quand même pour une des rares fois avec des clubs historiques en Ligue 2. Hein, si Bordeaux reste, Nantes qui va descendre, Saint-Etienne, Bordeaux. Voilà, j'ai l'impression que si on rate le coche cette année, malheureusement, la case Ligue 2, elle peut durer un long moment pour les Girondins de Bordeaux. Un trop long moment, hélas.
Éric Barrère, journaliste à Beansport, était l'invité de Bordeaux Le Mag. Sur le site, vous retrouvez l'interview de Patrick Battiston qui se rappelle de ses années avec le maillot au scapulaire. Et puis surtout, allez Bordeaux et allez tous voir Bordeaux face à Rodez.